Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au Théâtre de l'Alliance Française pour un Masque et la plume consacré ce soir à l'actualité dramatique et néanmoins théâtral avec les pour un oui, pour un non de la critique. J'ai nommé Fabienne Pascaud de Télérama, Armel Elio, Armelita du Figaroscope, Vincent Josse de France Inter, le grand atelier tous les dimanches sur notre chaîne, et Jacques Nerson de l'Obs pour parler ce soir de la vie de Galilée, du malade imaginaire, de N'écoutez pas mesdames, de Garde à vue, de L'heureux stratagème, pour un oui, pour un non, et puis, si on a le temps, des naufragés, de La fin de l'homme rouge. Dans le courrier de la semaine, Michael de Paris n'a pas compris notre lynchage en rang serré. Non, c'était pas en rang serré, parce que Jacques avait aimé, de la mise en scène de la dame de chez Maxime et le climat absurde et burlesque que Zabou insuffle à cette pièce. C'est à la Porte Saint-Martin que tu continues à défendre, Jacques.
Que je continue à défendre, absolument.
La mise en scène est énergique, on rit beaucoup, que demander de plus à une pièce de Feydeau. Bisous, nous dit Michael de Paris, bisous à mes pisses froids préférés, Philippe Chavernac, toujours à propos de Feydeau. Lui a beaucoup apprécié à la Comédie Française la puce à l'oreille de Feydeau. La mécanique du maître du vaudeville fonctionne à merveille. C'est un divertissement de haute tenue, même enthousiasme. Daline Sainte-Rose, un décor intelligent et original pour cette puce à l'oreille. Et surtout pour situer Feydeau dans les années 60. Assumant deux rôles, Serge Bagdasarian est éblouissant. C'est un festival, j'irai 2h15 durant et ça fait du bien. Pierre Cuzor a adoré lui aussi cette puce à l'oreille à la Comédie Française dans une mise en scène explosive de l'île au bord menée à un rythme d'enfer où le spectateur a à peine le temps de reprendre son souffle entre deux éclats de rire. Feydeau se retrouve ici matinée de Black Edwards et de Louis de Funès. Un spectacle idéal pour les fêtes de fin d'année, je vous le dis. Et si vous n'y êtes pas encore allé, le même Pierre Cuzor a vu, nous aussi malheureusement, Elephant Man aux Folies Bergères. Il a trouvé Joe Starr époustouflant de présence et de puissance, mais la pièce est beaucoup trop longue. C'est vrai que c'est 2h30 sans entracte, enfin avec entracte.
Avec entracte. L'entracte a été coupé, la pièce raccourcie.
Oui, mais moi j'ai profité de l'entracte ce jour-là, donc il la trouve quand même trop redondante et moralisatrice, et ça c'est assez gentil. La production a été montée pour Joe Starr et Béatrice Dalle. Le public vient pour eux, et là-dessus personne n'est déçu, car ils sont effrayants de justesse et de générosité, nous dit Pierre Cuzor. Vous l'avez vu ici, oui Fabienne?
Moi, je suis plus indulgente que vous parce que j'ai trouvé qu'effectivement, Joe Starr est une sorte de fauve en scène et qu'il a une présence assez époustouflante.
Le texte est nul.
Le texte est un peu lourd, dirons-nous, et mériterait d'être coupé. Je n'ai pas vu dans la version coupée. Le texte est un peu moralisateur et nous cherche à nous donner mauvaise conscience constamment.
Quant à Béatrice Dalle, elle arrive au bout de trois quarts d'heure.
Oui, mais elle arrive pas mal quand même. Son costume n'est pas très beau, mais elle a
Attifée comme l'as de pique.
Oui, on comprend pas pourquoi.
Armel, vous l'avez vu aussi?
Oui, je l'ai vu. Et alors, je suis très choquée d'une chose. On nous dit que c'est la première fois qu'Elephant Man est monté en France. Or, ça a été monté dans les années 80. Dans un petit théâtre, et je pense que c'est dans un petit théâtre que ça doit se jouer, là sur la scène des Folies Bergères.
C'est laid, le décor est laid.
C'est un univers concentrationnel quand même, c'est assez beau ça, l'espace gigantesque.
On ne le comprend pas, Fabienne. Autant Joe Starr, je suis d'accord avec vous, c'est un bon acteur, c'est un acteur, il a une présence, c'est indéniable, mais le texte se défait complètement sur ce grand espace. Bon. Mais ça, c'est prolongé, hein. Ça a beaucoup de succès parce que le public de Joe Starr et de Béatrice Dalle se précipite pour les applaudir.
Rémy de Boulogne, lui, est allé voir au Châtelet Les Justes dans la version d'Abd al-Malik. L'affiche était attirante, mais j'ai trouvé ça nul. Musique omniprésente et totalement hors sujet, comédien qui surjoue. Une catastrophe, nous dit Rémy, tellement lourdingue et ringard que le texte de Camus en sort abîmé. Est-ce que les masqués et plumés partageront ma déception qu'il a vue ici ?
Tout à fait, tout à fait. C'est bien pire pour moi qu'Elephant Man.
Pire qu'Elephant Man ?
Ah oui, parce que c'est aussi un spectacle politique qui prétend nous donner mauvaise conscience, nous rappeler...
Mais c'est maladroit, surtout Fabienne.
Mais c'est surtout inaudible, parce qu'il y a cette musique qui est une espèce de soupe en permanence, et que les acteurs sont obligés de hurler.
La pièce n'est pas passionnante. Enfin, la pièce a vieilli.
Montée comme ça, montée par Stanislas Nordet, elle était intéressante.
Oui, il y a 15 ans, quand Nordet l'a montée, c'était bien. Mais là, c'est vrai qu'on voit tout ce qui a vieilli dans la pièce, et parce qu'elle est montée avec une candeur, une naïveté, un premier degré, une sincérité qui n'est pas désagréable. Mais c'est vrai que cette musique est épouvantable et oblige les acteurs à surjouer. Mais il y a quand même, au milieu de tout ça, il y a Marc Zynga, qui est un acteur exceptionnel et qui tire son épingle du jeu.
René E. Marmonnier me reproche vertement, d'ailleurs, d'avoir coupé la parole aux deux critiques qui osaient formuler des réserves sur Palace de Jean-Michel Ribes. Non, je ne vais pas couper la parole.
Pas du tout,
Le temps était un peu limité. Or, le spectacle nous dit René E. Marmonnier est trop long, les chorégraphies répétitives, l'humour a bien vieilli, reste des trouvailles, l'escalier en panne et le vendeur de rêves. Mais pas de quoi crier au surréalisme, pas de quoi justifier toute une soirée non plus. Bref, reprendre Palace était une fausse bonne idée. Mathieu Chadebec remercie Armel d'avoir conseillé la magistrale Electre de Simon Abkarian. C'est au Théâtre du Soleil. Comment ne voyez-vous pas, vous les autres, que le théâtre est porté là à son plus haut, incandescence du texte, intelligence du propos, science du jeu. Enfin, Elisabeth Glardon réagit avec retard à notre critique de la pièce écrite par Laurent Godet, Nous, l'Europe, Banquet des Peuples, qui était à Avignon, qu'on avait vu à Avignon, qui est en tournée pour l'instant tout l'automne et l'hiver en France. J'ai savouré, nous dit Elisabeth Glardon, avec délice la manière dont vous avez dézingué cette pièce. En effet, j'ai joué en tant qu'amateur dans une pièce de Laurent Godet en 2012 à Bussangues, au Théâtre du Peuple. Je ne connaissais pas cet auteur avant cette douloureuse expérience. C'était une torture de jouer un si mauvais texte, c'était caillasse, je précise. Beaucoup considèrent Laurent Godet comme un poète. Ce n'est pas un poète, c'est un poète-poète. Voilà, c'est Elisabeth Glardon. Allez, on commence avec l'heureux stratagème de Marivaux, créé Jacques... Vous y étiez en 1733, qui reprend de manière métaphorique l'histoire du chien, du jardinier, qui ne mange pas les fruits qu'il a à sa portée, mais ne veut pas non plus qu'un autre les mange. Dans la pièce de Marivaux, la comtesse délaisse Dorante, qui ne demande qu'à être aimée. Elle préfère séduire un chevalier gascon pour lequel elle n'a que mépris, afin de le soutirer à la marquise, laquelle ourdit donc ce fameux heureux stratagème. Pour la pousser, la comtesse a désiré de nouveau Dorante. Si vous ne m'avez pas suivi, vous écoutez ça en podcast, vous verrez. Au théâtre Édouard VII, Ladislas Chola transpose la comédie de Marivaux dans Les années folles, avec Sylvie Testu dans le rôle de la comtesse, Jérôme Robard dans celui du chevalier d'Amis, Éric Elmosnino en Dorante et dans le rôle de la marquise Suzanne Clément. C'est relativement court, hein, c'est 1h50. Que pensez-vous de cette version année folle de l'heureux stratagème de Marivaux, Armel ?
Que c'est un spectacle très plaisant et que Marivaux supporte beaucoup de choses, des approximations, des transpositions, bon, qui ne sont pas nécessaires au fond, parce que ce qui est le plus vivant dans Marivaux, c'est la langue. Elle nous parvient toute fraîche, toute pure, merveilleusement jouée, je dois dire, par les comédiens. Alors il y a le
quatuor. C'est la première fois que Sylvie Testu fait de la scène.
Non, on l'a déjà vu.
Ah si, elle a joué. Elle a joué à Lyon, elle avait joué un spectacle de Philippe.
Oui, mais pas beaucoup.
Non, très peu. Très peu. Et ça lui va bien, Marivaux, parce qu'il y a un côté sagan dans cette comtesse, au fond.
Il y a un côté Don Juan.
Don Juan, oui, tout à fait, Fabienne. Et elle se délecte, mais il y a aussi une comédienne qu'on ne voit que très rarement sur les plateaux en France et qui est exceptionnelle, je trouve, parce qu'elle est discrète, elle est aiguë, elle est merveilleuse.
Suzanne Clément.
C'est Suzanne Clément qu'on connaît par les films de Xavier Dolan. Et puis bon, Jérôme Robard assure sa partition. Mais j'ai trouvé Éric Elmosnino formidable. Parce que il est fin, il est nuancé, il est... C'est un acteur qui aurait pu, à force de jouer des choses un peu faciles dans des comédies contemporaines, se perdre. Et là, j'ai trouvé qu'il était merveilleux. Il joue toutes les notes.
Moi, je suis d'accord avec Armel. J'ai passé un bon moment. C'est pas du grand Marivaux, hein, parce que l'intrigue est relativement simplette. Comment rendre jaloux la femme que vous aimiez, qui est en train de vous tromper. Donc ça, on en a vite fait le tour. Mais moi, ce que j'ai apprécié, c'est justement les échos du Don Juan de Molière, à travers Sylvie Testu, par exemple, qui dans une scène fait à sa domestique exactement le discours de Don Juan à Sganarel, en lui disant :« Mais moi, les hommes, je peux pas renoncer à un homme. » Sont tellement charmants, ils sont tellement beaux, pourquoi je me limiterais à un seul ? Et ça, je trouve que dans la bouche de Marivaux, j'ignorais qu'il était à ce point féministe, ça m'a fait plaisir.
Oui, enfin, c'est pas exactement la même époque, Jacques.
Mais moi, j'ai été très étonné, je crois que c'est la première fois de toute ma vie de spectateur que je m'ennuie à une pièce de Marivaux.
On n'a pas le temps, ça va si vite.
C'est pas si vite, je suis désolé, 2h10, c'est pas si rapide. Et surtout quand c'est faux, c'est très long. J'adore El Mocino, c'est un très grand acteur, j'aime beaucoup Sylvie Testu, c'est pas du tout le problème des acteurs. Je l'ai trouvé extrêmement mal dirigé par Ladislas Chola, dans un décor en plus ridicule, qui n'a aucun intérêt, qui est compliqué pour rien.
Mais vous supportez bien la comédie française qu'on monte Feydeau dans un chalet. Et là, pourquoi pas les années
folles ? C'est beaucoup plus justifié. Mais là, en l'occurrence, ça marche pas.
C'est un classique à Edouard VII. Hein.
Oui, mais bon, peu importe. Tant mieux pour Bernard Murat s'il monte de classique.
C'est plus Bernard
Murat. C'est des produits. Mais je trouve que malheureusement, le ton est faux. C'est joué sans naturel, sans grâce, sans légèreté. C'est pas bien. Même El Mocino est très, très casse-pied là-dedans. Oh, non, c'est vraiment pas un bon spectacle.
Sylvie Testu ne vous a pas séduit ?
Non, pas là-dedans.
Vincent.
Ça va être une critique un peu genrée ce soir, ce spectacle-là, parce que je suis d'accord avec Jacques. Je trouve que Ladislas Chola s'intéresse pas à ses personnages principaux, qu'il les pousse vers un vaudeville. J'avais l'impression, même si c'est un Gascon, le chevalier, d'être du
mais
côté
la
pagnol.
La pièce est un vaudeville, c'est pas mieux qu'un vaudeville. C'est la naissance du théâtre de boulevard, le rôle stratagème. Tout Marivaux n'est pas exceptionnel. Non,
il faut le jouer comme ça, j'en suis pas persuadé. Je trouve qu'El Mocino, au contraire d'Armel et de Fabienne, pleure, chougne, il chougne Marivaux, il se mouche Marivaux, il passe son temps à pleurer. Il a une seule note, un seul registre dans cette pièce. Sylvie Testu, effectivement, en Don Juan, est la seule parmi les personnages principaux qui est intéressante. Et Suzanne Clément, elle fait tout pour qu'on n'entende pas son accent québécois. Je n'ai vu que ça de la pièce. Du coup, elle a beaucoup s'abonné parce que elle essaie justement d'être dans un texte français.
Ça lui arrive très souvent.
Et le personnage, elle n'a pas d'émotion, elle ne dégage aucune émotion. L'intérêt, je trouve, de l'Euro Stratagème, ce sont les personnages les plus secondaires, qui sont Roxane Durand, on tombe amoureux d'elle, Florent Hill, Simon Thomas, excellent.
C'est déjà ça.
Et puis pourquoi les années 20 ? Qu'est-ce qu'elles viennent faire, les années folles chez Marivaux ? Ils vont se mettre à danser le Charleston, on se dit qu'ils vont peut-être faire ça, et comment ça aura de l'intérêt ?
Dans certains cas, et pas dans d'autres.
Écoutez, parce qu'elle n'est pas justifiée sur scène.
D'ailleurs, le Stratagème, on l'avait vu l'année dernière au Vieux Colombier.
Elle apporte rien, Fabienne, cette adaptation.
Bien sûr que si, elle apporte la légèreté de l'époque.
Alors, mesdames, allez voir le Stratagème.
Non, c'est pas du boulevard.
C'est du boulevard. Ce Marivaux-là, c'est du boulevard.
Et c'est au théâtre Édouard VII. N'écoutez pas, mesdames, justement, de Sacha Guitry. Une pièce qui se joue avec beaucoup de succès, il faut dire, à la Michaudière. Mais vous allez comprendre pourquoi. Dans une mise en scène de Nicolas Briançon, qui avait fait, vous savez, l'année dernière, ce Canard à l'Orange, au théâtre de la même Michaudière, qui avait plu à Fabienne, dans mon souvenir. C'est avec Michel Sardou, Nicole Croisille. Non, il n'y a pas Chantal Goya, mais il y a Lisa Martino. Carl Richer, Laurence Pilvogel, Michel Dussara et beaucoup d'autres. Après deux nuits où il a attendu en vain le retour de sa jeune femme, l'antiquaire Daniel Bachelet. C'est Sardou donc, le chanteur de La Maladie d'amour, envisage le divorce et finalement lui demande de s'en aller. C'est alors que Valentine, sa première épouse, qui est jouée par une autre chanteuse, donc Nicole Croisille, débarque pour le reconquérir, une comédie sur l'art d'aimer, dont je rappelle quand même qu'elle a été créée en pleine occupation, en mai 42. C'était au théâtre de la Madeleine, avec Guitry soi-même dans le rôle de Balchet. Vincent.
Écoute, Sardou est content d'être en scène.
T'as pas fait de grand atelier avec Michel Sardou encore ?
Non, mais tu me donnes une idée. Mais il est venu à France Inter chez Trappenard il n'y a pas si longtemps que ça. Alors Sardou est...
Non, mais je parlais du grand atelier.
Il voulait jouer cette pièce depuis des années, il la joue et il est heureux. Et c'est assez touchant de voir le bonheur de Sardou sur scène, d'autant plus qu'il a comme partenaire
entre autres... Mais c'est pas la question que je vous posais là, c'est pas de savoir s'ils sont heureux de jouer.
Mais si, parce que c'est assez communicatif.
Non, c'est si tu es heureux de les voir.
Il est pas mauvais dans ce Guitry. Et Nicole Croisy est très bien aussi, elle pourrait jouer la môme crevette, même si bon, elle a pas tout à fait l'âge du rôle. Mais je me suis dit qu'en meneuse de revue, c'était une évidence de voir Nicole Croisy dans ce rôle. Et tous les deux, ces deux anciens du musical, eh ben, ils sont heureux d'être là. Alors je le dis de façon un peu simpliste, mais leur duo est pas désagréable. Non. Ce qui est désagréable, est-ce le terme d'ailleurs, c'est que la pièce a beaucoup vieilli. Je crois qu'on ne peut plus monter cette pièce aujourd'hui, que ça parle du passé et pas d'aujourd'hui, et que l'intérêt d'aller au théâtre, c'est de voir quelque chose de nouveau, ou en tout cas un traitement nouveau. Briançon, il va toujours vers le passé, il regarde derrière, il trouvait certainement au théâtre ce soir exceptionnel.
Ah, il a monté Zeller quand même,
et
Briançon.
Il est toujours dans le rétroviseur, donc on voit quelque chose de daté. Aucun jeune ne viendra voir ça, ou alors ne retournera jamais au théâtre, c'est bien dommage. Moi, ça me fait toujours un peu de peine, finalement, de me rendre compte de ça.
Alors, c'est un avantage, c'est que c'est quand même rapide, hein, c'est 1h30.
Oui, c'est l'avantage, mais est-ce qu'il faut dépenser 50 euros?
Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Enfin, c'est un petit théâtre, mais c'est plein. Jacques?
Écoutez, moi, je suis pas du tout de l'avis de Vincent, bien que je n'aime pas non plus le spectacle, mais c'est pas pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que je suis pas du tout d'accord avec lui sur Sardou. C'est-à-dire que Sardou, il a pas de chance. Il y a un problème d'hérédité qui marche pas. C'est-à-dire que ses parents étaient comédiens, son fils est comédien, et lui, il aimerait l'être. Il le dit d'ailleurs, et il a curieusement, alors qu'il avait beaucoup de présence en scène dans ses récitals, il a aucune présence sur un plateau de théâtre.
C'est pas vrai.
Mais c'est assez. Il est totalement inexpressif. Son visage est un masque mort. Et l'œil est éteint. Il y a rien. Et alors notre œil à nous glisse sur lui comme l'eau sur les plumes du canard. On regarde son partenaire systématiquement. On peut pas le regarder parce qu'il y a rien. Alors, moi, je trouve pas que ce soit un comédien. Il dit dans le programme, si j'arrive à dire le monologue du début, alors je pourrais dire je suis un comédien.
Parce que la pièce est connue pour avoir un très
long monologue.
Un très long monologue qui a fait, à l'époque, le succès de Guitry. Hein.
Il le dit, ça c'est sûr, mais il n'est pas comédien. Et donc, pour moi, c'est déjà une catastrophe.
Mais quant à la pièce,
je suis d'accord, c'est vraiment pas la meilleure pièce de Guitry. Et ça,
Avantage, c'est que la ville n'est plus occupée déjà.
C'est vrai. Mais je pense réellement que c'est cette pièce qui a causé à Guitry ses ennuis la Libération. Pas les autres, parce qu'il a plutôt eu un répertoire un peu patriotique, etc., Pasteur, pour montrer la grandeur
de la
fête.
C'était vu comme une métaphore.
Mais là, c'était très décalé. Ça tombait vraiment comme un cheveu sur la soupe.
Alors Fabienne, qu'en pensez-vous ?
Moi, j'aime bien. Je ne suis pas toujours une fan de Nicolas Briançon, de ses mises en scène, mais
si
là,
vous
je
aviez
trouve...
aimé le Canard à l'Orange.
Mais non, j'avais pas aimé du non. tout le Canard à l'Orange.
Ah, c'était qui avait aimé?
Non, j'avais pas aimé du tout.
Qui avait passé une bonne soirée.
Je trouve qu'il a d'abord réussi à réunir une distribution assez exceptionnelle, avec des petits rôles formidables qui vont de Laurent Spielfogel à Michel Dussara. Lisa Martineau, je l'ai trouvé très, très bien. Pas du tout d'accord avec vous sur le côté démodé du spectacle. Parce que finalement, c'est la nostalgie, la mélancolie d'un antiquaire justement, qui ne s'occupe que d'antiquité, qui voit sa vie passer. Il a déjà été marié 3 fois. Les femmes sont parties où il les a quittées. Il ne comprend plus ce que sont les femmes. Et là, l'interprétation de Lisa Martineau, encore une fois, c'est comme Sylvie Testu.
Excusez-moi, mais l'âge de Michel Sardou vous gêne pas?
Pas du tout.
Ah bon?
Mais on voit, Jacques,
ça va pas tout à fait avec la pièce.
On voit beaucoup d'hommes de 80 ans qui séduisent des jeunes filles de 30 ans à l'heure d'aujourd'hui.
Ça, c'est la gérontophilie, c'est autre chose.
Donc... Je sais pas avec qui vous vivez, mais c'est pas si fréquent que ça non plus.
Avec un homme de 81 ans qui est formidable.
Ah, vous avez un homme de 81?
Ben oui. Dans ma vie.
C'est l'avantage de venir au masque, non? Parce qu'on apprend beaucoup de choses.
Peu importe. Moi, j'ai trouvé que Michel Sardou, justement, il avait une présence, une mélancolie, un humour, une distance par rapport aux choses. Non, il n'a pas d'absence, il n'a pas de trou, il joue,
il
voit les femmes passer, il voit les femmes de son époque évoluer, parce que c'est vrai que dans les années 40, les femmes sous l'occupation, elles commencent à bouger, comme c'était le même phénomène que la guerre de 14.
Mais qu'est-ce que vous en savez? Elle ne bougeait pas particulièrement.
La société commence à bouger. Et ça, on le sent. Et la misogynie dont on affuble toujours Sacha Guitry.
La pièce, effectivement, elle est pleine de réflexions misogynes.
C'est aussi une fascination pour les femmes. femmes qu'il n'arrive pas à comprendre, qui sont des objets étrangers, des corps étrangers, qu'il ne comprend pas. Et ça, finalement, qu'il n'arrive pas à comprendre les femmes, en faire le tour, moi, je trouve ça pas mal non plus.
En faire le tour, oui. Armelle.
Ah, moi, j'admire Fabienne. Je la ferais bien bisser sa, son analyse, là, parce que incroyable.
Ah oui, mais, ça, c'est vrai. N'écoutez pas Fabienne.
Mais en même temps,
c'est pas n'écoutez pas mesdames, non, c'est n'écoutez
elle
pas Fabienne.
Elle a raison. Elle dit des choses justes, sauf qu'on ne les ressent pas.
Ben moi, c'est quand même le problème. Moi, je les ai ressentis, Armelle. Ben, le soir où j'y étais, je les ai vraiment ressentis.
Moi, je vais dire une chose.
C'était un soir extraordinaire.
Michel Sardou, il est noué par le trac. Il doit savoir ce que dit avec beaucoup de cruauté, de sévérité, de lucidité Jacques Nerson. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est pas tout à fait un comédien à l'aise sur un plateau. Et le soir où j'y étais, mais je le sentais, mais complètement raide, noué, apeuré. Et en plus, comme il joue dans un théâtre qui lui est très cher, cher à son cœur, parce que c'est le théâtre où son beau-père, François Perrier, a beaucoup joué, et il rêvait de jouer là. Il rêvait de jouer cette pièce et de jouer dans ce théâtre. Donc il est arrivé à son...
Et de jouer ce monologue. Ce
voilà, et ce grand monologue. Mais comme c'est l'ouverture du spectacle, les interprètes sont vraiment pas chauffés, et lui, il est dans la peur terrible. Alors, autour de lui, ça s'agite très bien, c'est joli, ça bouge bien. Il y a les robes absolument fantastiques de Michel Dussara, qui fait une composition un peu sossote, mais qui, lui, a dessiné des costumes exceptionnels. Donc, c'est de la belle ouvrage, c'est une belle production, mais on sent la vieillerie de la pièce, quand même. C'est vieux.
N'écoutez pas, mesdames, Sacha Guitry. C'est à la Michaudière, le malade imaginaire, qu'aurait pu jouer d'ailleurs aussi Michel Sardou. C'est la dernière pièce de Molière, mais aussi la dernière qu'a mise en scène en 2001 le Suisse Claude Stratz, disparu en 2007. Et c'est pourtant dans cette mise en scène qu'on avait vu en 2001 que la Comédie Française reprend donc la comédie ballet, toujours avec la musique originale de Marc-Olivier Dupin, mais dans une distribution évidemment nouvelle. Elle se joue en tournée jusqu'au 19 décembre. Et sachez qu'elle arrivera en avril au Théâtre Marigny, qui va accueillir pendant les travaux la Comédie Française, quand la salle Richelieu va être en réfection, comme elle l'est tous les 6 mois. Et c'est Guillaume Gallienne qui reprend le rôle titre. Hypochondriaque, Argan projette, vous le savez, de marier sa fille Angélique, c'est Elissa Aloula, avec Thomas Diafoirus et Clément Bresson, le neveu de son médecin, Monsieur Purgon, qui est joué par le génialissime Christian Eck, quoi qu'il joue. Comme ça, en plus, il aura le médecin à demeure. Il envisage aussi de déshériter sa fille au profit de Béline, qui est Coralie Zao-Nero, la petite amie de Jacques Nerson, qu'il a épousée en second noces. Heureusement, il y a Angélique qui a 2 défenseurs, son oncle Bérald, c'est Alain Langlais. Et sa suivante, Toinette, qui est jouée par Julie Sicard. Donc ce malade, moi je suis comme, je crois comme Fabienne, on l'a vu en 2001, mais on n'a pas vu cette nouvelle version avec cette reprise du rôle-titre par Guillaume Gallienne. Donc je vais laisser les autres en parler. Vincent.
Oh, quel bonheur ce spectacle. S'il passe près de chez vous, allez-y, puis allez le voir à Paris si vous le pouvez, au Théâtre Marigny quand il passera.
Donc on a le temps, hein, parce qu'encore une fois, ça tourne jusqu'en
avril.
Décembre,
mais c'est après notez-le dans votre agenda. C'est un spectacle qu'on n'oublie pas. Il y a quelque chose de très mélancolique dès le départ. La première scène, Gallienne est dans son lit, le malade imaginaire, Argan, et il y a une odeur, il y a un parfum de mort qui règne. Alors on sait bien que c'est un malade imaginaire, on le sait dès, pour avoir lu la pièce, pour avoir vu le spectacle plusieurs fois, mais effectivement, il y a ce parfum-là qui règne, il est seul. On entend le vent, peut-être même dans mon souvenir des chiens qui aboient, ou alors je fantasme. En tout cas, il est extrêmement seul. On se dit, mais j'espère que les comédiens vont arriver, ne vont pas laisser cet homme qui a l'impression d'être en train de mourir. C'est très beau. Et puis d'un seul coup, déboule la jeune Toinette qui est irrésistible, pétulante, Julie Sicard.
Mais qui est toujours formidable.
Hein. Elle est toujours formidable. Je voudrais la voir davantage, moi, encore dans des premiers rôles, la voir davantage employée à la Comédie Française, la voir au cinéma. C'est une comédienne extraordinaire. Gallienne est sobre, on l'a connu moins sobre. Là, vraiment, il tient ce rôle d'une sorte de grand enfant perdu. À un moment, d'ailleurs, on va l'apercevoir en blanc dans une sorte de grande culotte. Alors, soit c'est un vieillard très malade dont on ne s'occupe pas, soit c'est un enfant.
J'avais le souvenir d'un spectacle, c'est beau, mais assez sombre.
Ah, il est sombre,
en 2001,
effectivement, mais la mort rôde, vraiment, je l'ai vécu comme ça.
Ils ont gardé ça.
Tous les comédiens sont bien, je trouve qu'il y a une grande homogénéité de la distribution. Ils ont chacun un rythme, une marche différente, on suit ça avec beaucoup d'intérêt. Et puis il y a aussi des musiciens qui arrivent de temps en temps comme des personnages de la Commedia dell'arte avec des ombres chinoises. Tout est juste
pour
et,
jouer Marc-Olivier
au service de Molière. C'était vraiment un très beau spectacle.
Armelle.
Oui, je suis d'accord avec avec Vincent Josse. Je suis en admiration devant l'interprétation de Guillaume Gallienne.
Assez Michel Serrault d'ailleurs.
Oui, mais en même temps, sans effet, sans en rajouter du tout. Il est très, très sobre. Il est très profond. Il est très... Il est à la fois inquiétant parce qu'il il fait subir de drôles d'humeur à son entourage, ce malade. Et en même temps, il est comme un enfant démuni, comme un vieillard qui redeviendrait un petit enfant, un peu comme faisait Michel Bouquet. Mais Michel Bouquet, il est dans l'expressivité, alors que Gallienne, tout est intériorisé. Le petit reproche que je ferai au spectacle, j'ai beaucoup admiré aussi Julie Sicard, qui est formidable. Le petit reproche, c'est sur la lumière et la, le fait que tout soit un peu enténébré.
Ah bah c'est,
et
c'est, que, c'est ce que je disais, c'est le souvenir que j'aimerais.
Et qu'on ne voit
ça.
Pas.
On est plus dans l'obscur. Dans
moi, j'aime voir les visages. J'aime voir les visages, entendre bien les timbres. Vous savez bien que quand on voit pas bien, on entend moins bien. C'est un peu dommage. Il ferait bien de monter un peu les lumières quand ils seront à Marigny. Mais pour le reste, c'est vraiment de la belle ouvrage. Et c'est étonnant le destin de ce spectacle. Il y a d'abord eu Alain Pralon, ensuite Gérard Giroudon, maintenant c'est Gallienne.
Et toujours dans cette régie d'un disparu. Jacques.
Je suis pas d'accord avec vous sur la mise en scène. J'ai beaucoup eu de plaisir grâce à Guillaume Gallienne. Je trouve un très grand malade qui est dans la lignée de Jacques Charon, dans cette espèce d'enfance qu'il a. Effectivement, on ne sait plus si on ne voit pas un enfant quand il est dans ses couches pratiquement. Ouais. Il est irrésistible. Mais la mise en scène de Claude Strass, moi, je l'ai déjà pas aimé à la création, et en la revoyant, je me dis, je crois que j'avais bien raison, parce que il fait, à mon avis, un contresens. Vous parliez de Beckett, ben oui, mais seulement Molière, c'est pas Beckett, et on regarde trop cette pièce sous prétexte que Molière est mort à la quatrième représentation, etc. On la regarde comme si c'était une pièce testamentaire. Ça n'est pas vrai. C'est une comédie extrêmement drôle, et je pense que c'est la desservir complètement que de la. Et Claude Strass disait c'est une pièce crépusculaire. Et bien je
parce
pense
que c'était
c'est,
la dernière.
C'est
de
une
Molière,
erreur totale.
Testamentaire.
Oui, mais elle pas testamentaire parce qu'il ne sait pas qu'il va mourir quand il l'écrit.
Bien sûr que
et
si,
que
la
au contraire.
Non, il ne sait pas du tout, Fabienne. Lis Georges Forestier.
Non, vous faites un contresens.
Lis Georges Forestier. Tout le monde doit lire Georges Forestier.
Ah, je suis bien d'accord avec Armel.
Jour par jour, on sait et on sait qu'il est mort, comme beaucoup d'autres gens sont morts à cette époque-là, d'un refroidissement, d'une espèce comme Apollinaire est mort de la grippe. Espagnol.
Je vous assure.
Et ça redonne une autre couleur à la pièce.
En tout cas, la pièce, c'est une. Mais c'est, je pense que c'est une erreur profonde.
Mais ça reste une comédie.
Effectivement,
hein.
la pièce se joue dans l'obscurité, dans un décor trop grand, où on entend le vent souffler, comme on se croirait dans une maison de film d'horreur. Il y a des. Les acteurs sont à contre-jour, on les distingue pas assez. Moi, si je vais au théâtre, c'est essentiellement quand même pour voir des acteurs. On m'en prive, on me montre des silhouettes, tout ça pour bien éclairer son décor. Mais c'est pas le décor qui est le principal au théâtre, c'est l'acteur. Donc je pense que c'est une erreur profonde. Cette mise en scène n'était déjà pas extraordinaire au départ. Et bon, paix à son âme, le pauvre Claude Strass a quitté ce monde. Mais en attendant, c'était vraiment pas une bonne mise en scène. Et ça ne l'est toujours pas. Mais Guillaume Gallienne est merveilleux.
Le malade imaginaire, donc vous pouvez le voir en tournée dans toute la France jusqu'en décembre et après au printemps au théâtre Marigny à partir d'avril. La vie de Galilée de Brecht qu'on a vu au printemps dernier au Français monté par Eric Ruff avec Hervé Pierre dans le rôle titre et qui d'ailleurs se joue toujours au Français, c'est jusqu'au 19 janvier, j'ai regardé les programmes, est aussi mise en scène. Et aujourd'hui, par Claudia Stavisky, la directrice du Théâtre des Célestins à Lyon, présentée il y a peu à la Scala, la pièce part en tournée à travers la France. Elle raconte les difficultés qu'a rencontré le savant italien du XVIIe pour transmettre ses découvertes dans une époque étouffée complètement par l'obscurantisme religieux et enflammée par les bûchers de l'Inquisition. Impossible, par exemple, de dire que la Terre tourne autour du Soleil, à tel point qu'il va devoir se rétracter publiquement pour rester en conformité avec la doctrine officielle de l'Église. Et c'est Philippe Torreton, vraiment taillé pour le rôle, qui joue ce Galilée dont on connaît la devise, celui qui ne connaît pas la vérité, celui-là n'est qu'un imbécile, mais celui qui la connaît et la qualifie de mensonge, celui-là est un criminel. Autour de Toreton, eh bien, il y a Frédéric Bory, qui est le pape, il y a Michel Hermon, qui est l'inquisiteur, il y a aussi Benjamin Jungers, Alexandre Carrière, Guy-Pierre Coulot, Mathias Di Stefano, Nano Garcia, Marie de Toreton. Fabienne, ça, vous l'avez vu?
Oui, je l'ai vu et j'ai beaucoup aimé le spectacle. J'ai préféré cette mise en scène à celle d'Éric Ruff à la Comédie Française parce que j'ai enfin compris le texte.
Oui,
toute la problématique du savant qui hésite entre dire la vérité, exposer ses progrès et se heurter au conformisme de son époque, je trouve qu'on le ressent complètement. C'est une pièce qui tenait très à cœur à Brecht, puisqu'il l'a réécrit moult fois entre 1938 et après Hiroshima. Il y a encore retravaillé à cause de la responsabilité, justement, du scientifique. Et là, je trouve que Philippe Toreton porte une énorme humanité dans un décor vaste qui pourrait être un hangar, un décor sans âge. D'ailleurs, les comédiens ont des costumes sans âge. Et il est à la fois agaçant et humain, terrible avec sa femme qu'il méprise un peu, et puis plein d'attention pour le peuple. Là, on découvre dans la pièce qu'il ne veut plus écrire en latin pour être diffusé et compris par tous. Donc il y a un goût déjà du collectif qui émerge dans ce spectacle. Je trouve que politiquement, c'est très passionnant et que Claudia Stavisky, avec rigueur, simplicité, fait parfaitement entendre le texte et que Toreton est éblouissant d'humanité, mais dans tout ce que ça peut avoir de paradoxe, de côté agaçant, exaspérant, de cruauté, de méchanceté, d'indifférence. En même temps, c'est un jouisseur. Il est prêt à tout sacrifier pour manger une belle dinde. Et je trouve que le spectacle manie à merveille réflexion et prosaïsme. C'est concret, matière, esprit, raison, philosophie, c'est formidable.
Et on peut confirmer que la Terre tourne bien autour du Soleil.
On peut.
Jacques.
Je suis d'accord avec Fabienne pour trouver que la mise en scène de Claudia Stavisky apporte un supplément de clarté. Et je comprends que la pièce, vous l'ayez mieux compris.
Elle n'était pas compréhensible.
Mais elle n'était pas
compréhensible.
Mais quelquefois, effectivement, notamment les sublimes costumes de la croix écrasaient un peu le propos ou nous distrayaient. Là, peut-être
Toreton est meilleur qu'Hervé Pierre. Oh,
je trouve Hervé Pierre remarquable. J'ai pas envie de les opposer l'un à l'autre. Je vous signale qu'on voit pas la femme de Galilée dans la pièce. Hein.
C'est une servante.
C'est sa servante, mais c'est pas sa
compagne.
Femme. Non.
Bah, il couche avec elle.
Je ne sais pas. Vous avez vu les choses en coulisses,
enfin,
pas moi.
C'est sensible.
Ah bah écoutez, je ne sais pas. Bah, je n'ai pas votre sensibilité.
Moi, je pense comme Fabien, il couche.
Oui. Bah, c'est pas l'essentiel, hein.
Pauvre Brecht.
Non, c'est pas parce qu'elle est la servante de Galilée qu'elle couche avec lui. Vous avez
dit ça ne paraît pas du tout le sujet de la pièce.
Je disais qu'il était désagréable parce qu'il la traite mal. Il la traite comme un chien. Par exemple, cette scène où elle refuse, où elle reste avec lui alors qu'il y a le choléra dans la ville, mais elle refuse de partir, de fuir pour rester avec lui. Il ne la remercie même pas. Il ne lui dit rien.
Il lui dit
t'es une dingue, t'aurais dû partir. Alors qu'elle sacrifie sa vie pour lui.
Mangé. Bon, on peut avancer un peu si vous voulez.
Mais tout ça pour dire que c'est une pièce effectivement admirable et essentielle. Et il y a quelque temps, j'ai entendu des critiques dans une émission de radio dire mais comment peut-on monter Brecht encore aujourd'hui? Ben là, je trouve que ces critiques aillent voir ce spectacle et elles comprendront que c'est un spectacle essentiel et un propos essentiel.
Il est quand même beaucoup monté. On a vu un Arthur Rowe il n'y a pas.
Bien sûr,
donc,
c'est un auteur essentiel. L'un des plus grands poètes du XXe siècle. C'est assez curieux de passer à côté comme ça.
Armel.
Oui, un des plus grands poètes du XXe siècle, comme dit Jacques, c'est vrai. Et c'est drôle parce que en lisant des analyses et tout ça, je ne savais pas, mais quand il l'a monté, lui, aux États-Unis, il avait confié le rôle de Galilée à Charlotton.
Oui.
Et je trouve que ça dit quelque chose sur la... Ce Charlotton, évidemment, l'immense cinéaste de La Nuit du Chasseur, mais un homme pas très beau, un peu pâteux. Et voilà comment Brecht voyait son Galilée. Mmh. Et c'est vrai que ça rejoint ce que viennent de dire et Jacques Nerson et Fabienne Pascaud. Toreton, il trouve cette humanité-là. Il a une espèce de rugosité, de puissance intérieure qui s'exprime un peu, d'une manière un peu braque. Et violente et dérangeante sur le plateau et avec les autres et avec sa servante et avec les gens. Et en même temps, il y a tout l'art de Torreton qui est vraiment un interprète exceptionnel. Il joue tout sans, il a même pas besoin des mots. Par exemple, il devient aveugle, donc, dans la vérité de la réalité de la vie de Galilée, dans la pièce. Eh bien, avant même qu'il en soit question dans la pièce, on comprend que le Galilée Torreton ne voit plus bien. Tout ça est magnifique, c'est vraiment un spectacle que chacun devrait voir.
Vincent. Ah oui, c'est quelque chose de très grand, tout est grand dans ce spectacle, à commencer effectivement par Torreton. C'est vraiment bon de le voir vieillir sur scène, Philippe Torreton. Il se bonifie, comme on le dit, d'un bon vin. Il a un plaisir
fou. Il a eu de très grands rôles. Enfin,
il a eu de très grands rôles, mais tout seul à la Comédie Française.
Même quand il faisait les petits Américains.
Henri V à Avignon, il était époustouflant. Ouais. Il a eu de très grands rôles.
Il a dû grandir, mûrir encore une fois. À certains moments, j'avais un peu peur comme spectateur des choix qu'il faisait, j'avais peur qu'il aille cabotiner un peu. Là, il est totalement au service de ce personnage qu'il admire. Il est Galilée, comme Brecht, en écrivant, était sans doute Galilée, avec une poésie, tu as employé le terme, extrême. Je me souviens de cette phrase, les villes sont étroites et les têtes aussi. C'est très beau, ça dit tout de Galilée, qui effectivement nous touche parce qu'il est humain, trop humain, il est veule aussi par moments, il va se renier, hein, parce qu'il va avouer à la fin du spectacle qu'il a eu peur de la torture, il a eu peur d'avoir mal, et c'est pour ça qu'il va se renier, et du coup il va déplaire à un certain nombre de ses partenaires, de ses collaborateurs. C'est une pièce qui parle d'aujourd'hui, c'est extrêmement contemporain, avec une mise en scène toute simple, effectivement, qui ne cherche pas les effets.
Alors, cette vie de Galilée de Brecht, qui vous a tous enthousiasmés, avec cet excellent Torreton, vous pouvez la voir en novembre à Marseille, à Châteauroux, en décembre ce sera à Lyon, à Antibes et puis après en janvier à Saint-Étienne, à Nevers, à Angers. Bref, ça tourne beaucoup la vie de Galilée à travers la France. Allez, on va aller un peu plus vite parce qu'on n'aura pas le temps sinon de tout évoquer. Je vous propose En garde à vue d'après le roman du Britannique John Wainwright, adapté ici par Francis Lombraille et Frédéric Boucher, qui a inspiré, vous le savez, en 81, le fameux film de Claude Miller, Garde à vue, avec Michel Serrault, Lino Ventura, Romy Schneider et Guy Marchand. C'était donc en 81. Et là, c'est mis en scène au Théâtre Héberto par Charles Torchman avec Vladimir Yordanov, Thibaut de Montalembert, Marianne Bassler et Francis Lombraille. Pendant le réveillon de Noël, Monsieur Bergerot, c'est donc Thibaut de Montalembert, c'était le rôle de Serrault, maire d'une petite ville. Dans mon souvenir, dans le film, il était notaire et pas maire, et convoqué au commissariat pour être entendu dans des affaires de viol et de meurtre de trois jeunes filles. D'abord simple témoin, il devient le principal suspect aux yeux du commissaire Toulouse, qui est joué par Yordanov, c'était Ventura, et de l'inspecteur Bertil, c'est Francis Lombraille, et c'était Guy Marchand, sa femme, Marianne Bassler, l'accable alors qu'il encourt la peine de mort. Encore, si j'ose dire, un film portait la scène, qui est maintenant une vogue récurrente dans tous les théâtres de France. Dites-moi vite si vous conseillez cette garde à vue version Héberto.
Franchement, non, c'est nous qui sommes en garde à vue. Ça dure 1h35, mais ça se traîne. On a l'impression que les comédiens s'ennuient à jouer ça, que Marianne Bassler, qu'on aime tant, joue pas ça, mais joue Racine, que Thibaut de Montalembert a envie d'être inculpé le plus vite possible, alors qu'il ne le sera pas, je vous le dis. Mais il attend que ça pour pouvoir aller dîner avec sa famille. Enfin, on sent quelque chose de terrible et on est mal à l'aise pour eux parce que ce sont de très bons comédiens. Yordanov aussi fait ce qu'il peut, il joue sa partition alors que Lombraille joue les beaufs, comme on jouait les policiers dans les années 80 avec des biceps plein les bras, plein les manches. C'est insupportable.
Les biceps plein les bras, c'est aussi.
Oui, bon, tu vois ce que je veux dire, je me laisse emporter, mais n'allez pas voir En garde à vue, c'est une adaptation pour rien. Il faut que le théâtre arrête d'emprunter au cinéma. Il y a des auteurs contemporains qu'on n'entend pas. Et pourtant, ils sont là. Ils ont 30 ans, ils ont 40 ans. Ça, on ne les joue pas.
Tu dis
c'est très dommage.
Très importante, Vincent, parce que moi, masque théâtre après masque théâtre, je n'arrête pas d'inscrire des classiques à revisiter, bien sûr. Mais je ne trouve plus quasiment un seul auteur contemporain vivant.
Ils tapent aux portes
vivant.
Des théâtres, ils ne sont pas souvent entendus. Alors
l'équivalent
il y a
de ce qu'il y a. Parce que les directeurs de théâtre ont peur de l'équivalent prendre
l'équivalent
des
de
risques.
L'équivalent de ce qu'il y a. Mais ils existent. Les auteurs de théâtre contemporains existent, il faut le dire. Il faut qu'on puisse les entendre et les voir.
Oui, mais c'est vrai que dans les théâtres privés, ils préfèrent...
Masque après masque, c'est Molière, c'est Marivaux, c'est Shakespeare, c'est Brecht. Et voilà, et on cherche les...
Il y a des tentatives du côté de la Porte Saint-Martin de faire en cours du théâtre aujourd'hui.
Fédo, l'année dernière.
Il y a le Petit Saint-Martin à côté qui propose
le Petit Saint-Martin,
mais
des petits jauges.
Bon, donc au moins c'est clair pour Vincent, pour Jacques.
Eh bien, écoutez, Robert Hossein, quand il faisait du théâtre, avait
trouvé un slogan. Tu vas encore nous rajeunir,
là. Il disait, il y avait des affiches partout, du théâtre comme au cinéma. Aller voir du théâtre comme au cinéma. Et là, c'est du théâtre comme à la télévision. Mais à la télévision des années 70.
Oui, c'est daté aussi.
C'était un bon film, le Miller. Hein.
Oui, alors que là, on retombe dans le commissaire Bourrel ou quelque chose comme ça. Donc, voilà, ça n'a strictement aucun intérêt.
Bon. Fabienne ?
Oh, il y a un petit suspense pour ceux qui n'ont pas vu le film de Claude Miller.
S'il y a bien un sujet pour lequel il n'y a pas de suspense, c'est bien celui-là.
Ah si, quand même, un petit peu. Mais enfin, Marianne Bassler n'est pas Romy Schneider. Et surtout, Vladimir Yordanov et Thibaut de Montalembert, qui sont de très bons comédiens, ne feront jamais oublier Lino Ventura et Michel Serrault. Alors, c'est pour ça que c'est maladroit de monter des films qu'on voit sans arrêt à la télévision le dimanche ou le samedi ou n'importe quel jour et qu'on peut télécharger. De monter alors qu'on a en tête comédiens magnifiques, de vouloir rivaliser avec eux quand on n'a pas la taille.
Dans un décor horrible, en plus, qui se veut vaguement abstrait pour pas être réaliste.
Le décor voudrait être abstrait.
Ça n'a aucun sens.
Et de faire décoller du réel.
Franchement, c'est pas ce qu'il y a de pire dans le spectacle. Hein, le décor, c'est...
Oh, la chute, enfin, je ne veux pas raconter la fin, mais enfin, la fin est quand même bien pitoyable dans ce décor.
Armel.
Bon, oui, ben tout est dit, je vais pas en rajouter. C'est vrai que c'est une très mauvaise idée. Ils sont repartis du roman pour nous faire croire qu'ils n'étaient pas partis du film. Ils sont repartis du roman. Or, c'est tout à fait
d'où les petits changements,
film,
la même chose.
Mais franchement, c'est un ratage. C'est triste oui, parce que c'est des acteurs que l'on aime beaucoup. Mais
bon,
c'est pas
allez, courez voir En garde à vue au théâtre Héberto. Emmanuel Mérieux, qui est un cas intéressant, adapte deux œuvres, La fin de l'homme rouge ou Le temps du désenchantement de Svetlana Alexievitch et Les naufragés de Patrick de Clercq. C'était, je dis bien, au Bouffe du Nord, sur un plateau d'ailleurs pareillement et volontairement dévasté. C'est maintenant en tournée, La fin de l'homme rouge avec Anouk Grimbert, Evelyne Didi, Xavier Gallais, Jérôme Kircher, André Wilms, le grand André Wilms, Maud Wheeler et la voix de Catherine Yeagel. C'est l'adaptation de la somme de la prix Nobel 2015, Alexievitch, consacré, vous le savez, au basculement de l'URSS à la Russie, du communisme au capitalisme, avec 7 témoignages. J'ai pas le temps de les raconter, qui vont de la mère d'un garçon de 14 ans qui s'est pendu jusqu'à un ancien membre du PC qui est formidablement interprété par André Wilms. Et puis Les naufragés avec François Cotterêle et Stéphane Balmino. C'est l'adaptation scénique du livre que le psychanalyste Patrick de Clercq a tiré des 15 années passées auprès des clochards de Paris, dans la rue, dans le métro, dans les centres d'hébergement et aussi à l'hôpital. Je rappelle qu'il a créé à Nanterre la première consultation d'écoute destinée au SDF. Donc deux spectacles rigoureusement différents, sauf pour le désespoir et en même temps une actualité qui parfois se prolonge tristement. Je ne sais pas si vous voulez en parler des deux en même temps. On est malheureusement un peu pressé par le temps.
Oui, on va faire ça.
Alors Vincent oui.
Écoute, moi je pense qu'il faut lire les livres qui sont des livres essentiels, importants de notre époque, mais qu'on peut se dispenser d'aller voir du théâtre parce qu'il n'y a pas de théâtre dans ces spectacles.
Il y a des acteurs, vous ne pouvez pas dire ça.
Il y a des interprètes magnifiques.
Il y a des acteurs magnifiques,
ça se succède. Ils se succèdent au micro. Alors, il y a 500 témoignages dans le livre La fin de l'homme rouge, là, il y en
mais
a 5.
Enfin,
il y en a 5, on a l'impression qu'il y a
comment.
Les 500. Il y en a 5
vous
ou 7.
Vous aussi, vous êtes derrière un micro.
Oui, mais je ne fais pas du théâtre, je fais de la radio.
Ah oui, mais ils le font admirablement
leur métier. Mais là, il appuie, c'est lourd. Alors, c'est l'Union soviétique qui, en pleine dislocation, donc il va disloquer, évidemment, son plateau. On va nous faire des projections qui sont toujours les projections des mêmes images. Alors, la statue de Lénine qui s'effondre, on va la voir 2700 fois. Dans Les naufragés, on va aussi avoir les mêmes images, les mêmes sons.
Ah bah non,
ça tourne.
Et
on nous fait du gros théâtre bien appuyé. On nous dit, vous avez vu
les pauvres
victimes.
Les pauvres gens qui nous montrent.
Nous montre du doigt en disant et si vous n'êtes pas ému, et ben c'est pas bien de pas être ému. Moi je me sentais culpabilisé de pas être pris.
C'est pas moralisateur, c'est pas vrai.
Mais
pas
si justement, et c'est fait sans aucune finesse.
Non, je crois que
j'ai pas pu, mais j'ai vu Les naufragés. C'est un spectacle qui compte dans ma vie. C'est-à-dire que après avoir vu ce spectacle, on ne peut pas regarder un SDF de la même façon. Ça change notre regard sur le monde.
C'est parce qu'il y a un texte et un récit.
Il y a un texte et
il y a un acteur.
Il y a un acteur éblouissant.
C'est pas le spectacle qui te fait regarder les SDF.
Et d'autre part, il y a un décor mystérieux qui a une correspondance avec ce qu'on entend. Et en même temps, je ne la comprends pas. Je vois un bateau échoué sur une plage. Je vois des vagues. J'entends le bruit du ressac très doux. Et je sens que ce bateau est nécessaire alors que ça n'a rien à voir avec l'action puisqu'on parle des clochards du dépôt de Nanterre. Et en même temps, sans ce bateau, je n'arriverais pas à entendre le reste. C'est magnifique, c'est un spectacle majeur. Je pense que là, tu passes complètement à côté, c'est dommage pour toi.
C'est un décor, un gros décor.
Décor qui rend hommage à ces gens de peu. Et c'est ça qui est magnifique, qui est bouleversant. Il a fait un décor spectaculaire. Il a mis des images vidéo.
Qui va très bien avec les Bouffes du Nord.
Exactement. Et qui rend hommage à ces gens qu'on ne regarde pas, ces gens qu'on ne considère pas, ces gens pour lesquels il n'y a pas de politique sociale.
Ça appelle de la sobriété.
Non, pas forcément du tout.
Pas du spectacle appuyé par son décor. Ça appelle une sobriété dans la mise en scène qui n'est pas là.
Pas forcément. Planchon disait toujours qu'il voulait faire des spectacles magnifiques pour les gens du peuple, pour leur en foutre plein la vue parce qu'ils ont envie d'en avoir plein la vue. Et ben là, je trouve que ça serait condescendant de vouloir parler des SDF dans un décor misérable. Lui, il leur donne un écran magnifique.
Ah oui, une splendeur même.
Une splendeur et on
c'est
entend
d'autant mieux. C'est un écran destroy quand même. Tout est déglingué.
Si vous n'avez pas été sensible à cette parole, encore une fois, sans emphase, sans rien, c'est un théâtre de la compassion. Oui. Et c'est ça que je trouve bouleversant. C'est que sans en faire des kilos, il nous amène, comme le disait très justement Jacques, à regarder ces gens-là, comme dirait Brel, autrement, différemment.
L'expérience de l'auteur, tu ne parles pas du spectacle.
Je vous parle de mon expérience, de ce que j'ai vécu.
Vincent, on parle du spectacle.
Et idem pour la fin de L'Homme Rouge, où tous ces témoignages autour de la fin du communisme sont aussi totalement fascinants et où on les voit regretter finalement cette utopie collective qu'ils avaient du temps du communisme. C'est bouleversant.
Alors, à moi.
quelques mots parce que le
plaisir. Moi, je considère Emmanuel Mérieux comme un de nos plus grands metteurs en scène.
Entièrement d'accord.
C'est quelqu'un qui a toujours des fulgurances, des visions sur des textes. Souvent, effectivement, il ne monte pas des textes de théâtre. Il va chercher dans des romans. Il va chercher chez Sorge Chalandon ou chez les Américains. Il va chercher dans des endroits qu'on n'explore pas forcément au théâtre. Et là, il nous fait réentendre cet ouvrage de Patrick Declercq qui est essentiel, qui a pour moi été un choc aussi important que, je sais pas, comme les anges déchus de la place Saint-Michel autrefois. Un texte qui tout d'un coup nous oblige à voir le monde de nos proches, nos frères, ceux qu'on ne regarde pas d'habitude. Et l'adaptation qu'il a faite de La fin de l'homme rouge, je voudrais quand même citer au passage Stéphanie Loïc, qui a beaucoup monté ces textes-là, très bien aussi. Mais là, c'est vrai que c'est un petit peu dans l'emphase de l'espace, mais les acteurs sont tellement exceptionnels.
Pas tous, hein. Xavier Gallais, bien sûr, mais...
Mais si tous
Evelyne
sont bien.
Evelyne Didi, elle est magnifique.
Enfin, tout le monde.
André
Et donc, là aussi, voilà un spectacle, c'est comme quand on a parlé de Galilée, un spectacle nécessaire et qui fait du bien à chacun.
Emmanuel Mérieux, donc, adapte ces deux grands livres, hein, La fin de l'homme rouge d'Alexievitch et Les naufragés de Patrick Declercq. Alors, ça sera... Le 29 novembre à Beauvais, en janvier à Nevers, à Vénissieux, à Vannes, en février à Rennes et Toulouse, et ailleurs encore jusqu'en mai 2020. Donc c'est une grande, grande tournée que vous propose Emmanuel Mérieux. J'avais inscrit, on n'a pas le temps d'en parler, de Nathalie Sarraute pour un oui ou pour un non. C'est à la Manufacture des Abbesses avec Tristan Ledose, Gabriel Ledose, Bernard Bollet, Rémi Jouvin, Anne Plumet. Vous dites... Vous conseillez pas, mais sinon on n'aura pas le temps d'évoquer d'autres choix pour finir l'émission. Je crois que Jacques l'a pas vu.
La pièce reste magnifique. Donc la mise en scène et l'interprétation sont à mon goût un peu scolaires, mais ça mérite quand même d'aller réentendre ce texte.
Bah oui, la pièce est toujours aussi passionnante. Pour découvrir la pièce, mais le spectacle est très vieux.
Le spectacle, il est dans la probité, la simplicité, la malice.
On entend
ça pas dans le génie, Mademoiselle Sarraute.
Enfin bon.
Du théâtre.
C'est pas vraiment une dramaturge contemporaine. Allez, on termine avec un conseil, on va commencer avec Jacques.
Eh bien, j'ai eu l'occasion de voir, avant son arrivée à Paris, puisqu'il arrive, je crois, le 8 novembre au Bouffe du Nord, le Golden Hymn, une des dernières soirées de carnaval, montée par Clément Hervieux-Léger, et c'est un spectacle très, très, très magnifique.
On va en reparler.
On en reparlera, mais je le conseille d'ores et déjà.
Fabienne.
Moi, deux spectacles deux one-man shows quasiment. Madame se meurt au théâtre de poche chez Marcel Bozonnet, qui reprend Bossuet. Madame se meurt, c'est évidemment Henriette d'Angleterre. Et c'est avec de la musique baroque, il fait entendre ce texte, il le danse presque, c'est magnifique. Et ensuite, encore une fois, un monologue, un Irish story, une histoire islandaise au...
Irlandaise.
Irlandaise, oui, pardon. Je ne vois même plus où c'est.
C'est au Théâtre de Belleville.
Au Théâtre de Belleville, avec une comédienne éblouissante qui s'appelle Kelly Rivière, qui raconte la disparition de son grand-père à Londres. Son grand-père qui était un Irlandais du Sud, qui avait immigré à Londres parce qu'il n'avait pas de travail et qui a eu une vie de misère. Et elle fait le parcours en quête de son grand-père. Elle est magnifique.
Mon conseil, c'est la reprise à la Scala de Paris jusqu'au 5 janvier de J'ai des doutes, le spectacle de François Morel qu'on avait vu au Rond-Point, qui reprend certains sketchs de Raymond Devos, Morel qui espère donc prendre au quart, le quart pour Caen, qui elle est et qui demande ce cas. Oui, Louis Delois de Louis, avec la complicité de, toujours formidable, complicité musicale d'Antoine Salaire. Bref, j'ai des doutes, c'est le forum de Devos. La rencontre au sommet de ces deux jongleurs de mots, deux funambules du rire, c'est-à-dire Devos et Morel. Et puis je précise quand même que notre ami François Morel publie aussi « Je n'ai encore rien dit » aux éditions de Noël, recueil de ses chronique qu'il donne depuis de longues années sur Inter. Et là, en l'occurrence, un livre important puisqu'il entonne un hymne vibrant au camembert AOP et propose d'introduire, ça vous concerne, la publicité Carglass répare, Carglass remplace lors des représentations de la Ménagerie de verre au théâtre de Tennessee Williams. Voilà, allez, le conseil d'Armel.
Il y a un film aussi qui va paraître sur lui où il y a toute une séquence sur les chaussettes rouges. Il veut des chaussettes du Vatican et il use beaucoup de paires de chaussettes du Vatican.
Ils sont aussi celles de Balladur.
Ouais, les chaussettes de Balladur. C'est épatant. Alors, un grand maître arrivé, mais qui se remet en question tout le temps. Et là, c'est un très, très bon spectacle. Christophe Warlikowski. Ça s'appelle « On s'en va ». C'est sur la Pologne d'aujourd'hui. Ça se donnera à Chaillot, salle Jean Villard, du 13 au 16 novembre. C'est merveilleux. Et alors, à l'autre bout, une jeune pousse, une inconnue, qu'on connaît grâce à Fabienne Pascaud et à Télérama et au festival Impatience. Elle a gagné le prix l'année dernière, à la fin du printemps, là. Ça s'appelle Place. Elle s'appelle Tamara Al-Saadi. Elle est irakienne d'origine. C'est formidable. Ça tourne partout en France.
Le conseil pour finir de Vincent.
Je vais faire court parce que c'est un conseil évoqué déjà par Fabienne, qui est cette histoire irlandaise au Théâtre de Belleville. C'est pour magnifique. Ça que je crânais en te disant que c'est au Théâtre de Belleville. Effectivement, j'ai découvert, moi, cette personnalité parce qu'elle en a une. Elle est incroyable. Elle était danseuse. Elle danse bien sur le plateau. Elle raconte une histoire avec son corps et ses mots, aussi bien en français qu'en anglais qu'en irlandais. Elle va essayer de comprendre pourquoi ce grand-père a disparu. Elle remonte sa propre histoire irlandaise en racontant par moments des petites histoires aussi de l'Irlande. Elle est étonnante. Il y a quelque chose de très vivifiant. On ressort assez joyeux d'un Irish story, une histoire irlandaise. C'est jusqu'au 30 décembre au Théâtre de Belleville à Paris.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Fabienne Pascaud, Armel Héliot, Jacques Nerson et Vincent Josse pour cette émission qui était comme chaque semaine présenté par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lysiane. C'est là, mais ce soir au théâtre de l'Alliance française à la technique, il y avait, et je les remercie, Philippe Mercher, Valentin Azan, Zielinski, Éric Carrère. La réalisation était signée Xavier Pestugia. Et vous notez bien, s'il vous plaît, que le prochain enregistrement du Masque, eh bien, ce sera le jeudi 7 novembre au Théâtre de l'Alliance française, 101 boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, pour deux émissions, l'une consacrée au livre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parle de films. Et je vous dis à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.